Le journal Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, les survivants sont fatigués. Numéro spécial de Charlie Hebdo ce matin, 3 ans après l'attentat. Le patron de la rédaction raconte les conditions de travail, la vie dans un bunker, la peur de recroiser des terroristes. Et il s'interroge sur le prix à payer pour la liberté d'expression. Une semaine de manifestations en Iran. Emmanuel Macron appelle le régime de Téhéran à la retenue. Vous entendrez le témoignage d'un opposant iranien aujourd'hui réfugié en France. Et on ouvrira, Nicolas, le dossier à 8h20 avec votre invité.
Jean-Pierre Filiu, il est professeur en histoire du Moyen-Orient à Sciences Po. Toutes vos questions dès maintenant, le standard est ouvert. 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, Lactalis a-t-il cherché à étouffer l'affaire du scandale du lait contaminé? C'est ce qu'affirme ce matin le Canard enchaîné. Des téléphones fixes bientôt dans toutes les cellules de France. Les gardiens de prison sont plutôt sceptiques, vous l'entendrez. La tempête Eleanor qui commence à décoiffer l'ouest avant de frapper la moitié nord. Attention aux rafales ce matin. Et puis à la fin de ce journal, le coup de rabot du gouvernement pour l'aide à l'achat d'un vélo électrique et les conseils lecture d'Ilana Mor-Youssef. À quoi ressemble leur vie 3 ans après le 7 janvier 2015? La rédaction de Charlie Hebdo était décimée par un commando terroriste. 12 morts tombés sous les balles des frères Kouachi. Les survivants ont repris le flambeau. Il fallait que le titre vive. Mais aujourd'hui, les rescapés sont épuisés. Ils le disent. Ils n'en peuvent plus de vivre dans un bunker sous protection permanente. La peur au ventre. C'est le directeur du journal RIS qui l'écrit dans un numéro spécial qui sort ce matin. Alexandra Akoun.
C'est un véritable coup de gueule, celui d'un patron de presse qui n'en peut plus de vivre bunkerisé depuis 3 ans et qui raconte par le menu cette protection qui leur pourrit la vie à tous et coûte une fortune. Des équipements qui ont été installés dans le bâtiment où loge Charlie à la société privée qui se charge de la surveillance des lieux. Il y en a chaque année pour 1 million, 1,5 million d'euros entièrement à la charge de l'hebdomadaire, précise-t-il. Ajouter à cela la sécurité de certaines personnes du journal, assurée par le service de protection de la police nationale, donc financée par les impôts que Charlie paye aussi au titre de l'impôt sur les sociétés. Quel autre média en France doit investir autant d'argent pour lui permettre d'user de cette liberté fondamentale qu'est la liberté d'expression, s'agace alors RIS, pour qui cette liberté est en train de devenir un produit de luxe. Jusqu'à quand le journal pourra-t-il supporter une telle charge financière? Nul ne le sait, écrit-il, d'autant que les abonnements, qui après les attentats étaient montés à 190 000, tournent aujourd'hui autour de 30 000, mais ça, RIS ne le dit pas.
Charlie, 3 ans après, nouveau numéro du souvenir, donc dans les kiosques aujourd'hui, vous découvrirez sa une ce matin sur franceinter.fr. Samedi, une partie de l'équipe de l'hebdomadaire participera à une journée spéciale organisée notamment par la LICRA. Le lendemain, une commémoration officielle aura lieu pour les victimes de Charlie et pour celle de l'hypercachère de Vincennes morte quelques jours plus tard.
Un coup de fil entre Paris et Téhéran, Marc, hier soir.
Il était prévu de longue date mais il prend une tonalité particulière après une semaine de manifestations en Iran. Emmanuel Macron s'est entretenu hier soir avec son homologue Hassan Rouhani. Il l'appelle à la retenue, à l'apaisement. Quant à la visite sur place du patron de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, prévue après-demain, elle est repoussée à plus tard. Évidemment, toute la communauté iranienne de France suit cette crise de très près. C'est le cas de l'homme que vous allez entendre. En 2009, il avait participé aux manifestations contre l'ancien président conservateur Ahmadinejad, aujourd'hui réfugié en France. Il voit dans la manifestation, dans les manifestations actuelles, la suite de ce mouvement. Thibault Lefèvre l'a rencontré.
Des dizaines de vidéos de manifestations de mauvaise qualité capté pour la plupart la nuit. Le fil d'actualité Facebook de Maziar est un flux continu d'images envoyées d'Iran.
Ça m'a réveillé. Je suis très 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 positive pour changement. Ils réclament des minimums. J'aimerais bien retourner en Iran à manifester avec eux. Les bases qu'on avait mis il y a 8 ans, ça a bien poussé.
Les revendications des manifestants ont changé, l'attitude du régime aussi. En 2009, la contestation concernait essentiellement l'opposition réformatrice. Aujourd'hui, elle pénètre le cœur du pouvoir. Exemple avec un extrait de la télévision iranienne devenue virale. Un présentateur, fidèle au régime, demande pour la première fois des comptes à ses dirigeants. Dans son viseur, l'économie, la pollution et le prix de l'énergie.
C'est pas moi qui parle, c'est pas mes amis, c'est pas quelqu'un qui est dans la rue qui part. C'est le star de régime qui commence à poser ses questions. Le mur est en train de tomber.
Un mur qui a commencé, selon Maziar, à vaciller il y a moins de 2 mois. Lors du tremblement de terre survenu à l'ouest du pays, plus de 600 morts, des milliers de blessés et des pouvoirs publics déjà accusés d'inertie.
Et cette nuit, ce sont des dizaines de milliers de partisans du régime de Téhéran qui ont manifesté, annonce la télévision iranienne. Moi aussi j'en ai un, il est beaucoup plus gros que le sien. De quoi parlait donc Donald Trump cette nuit dans l'un de ses derniers tweets? Du bouton nucléaire, évidemment, réponse au leader nord-coréen Kim Jong-un qui avait averti qu'il était prêt à lancer une attaque contre les États-Unis au-delà de cette guerre des mots façon cours d'école. C'est bien une désescalade qui est en cours entre les deux Corées. Ce matin, la Corée du Nord annonce le rétablissement du téléphone rouge, la ligne directe entre les deux pays. Elle était coupée depuis 2013. Au Pérou, les habitants l'ont surnommé le virage de la mort et on comprend pourquoi un car qui empruntait cette route a chuté d'une falaise de 100 mètres de haut. Le bilan, encore provisoire ce matin, est de 48 morts.
Il est 8h06, Marc. Le groupe Lactalis a-t-il cherché à étouffer l'affaire de la contamination à la salmonelle?
C'est le canard enchaîné qui l'affirme ce matin après le retrait de plusieurs centaines de milliers de boîtes de lait pour bébés. Bonjour Philippe Randet.
Bonjour.
Le groupe aurait détecté une contamination dès le mois d'août dernier dans son usine de Mayenne, mais il n'aurait rien fait.
Oui, selon l'hebdomadaire satirique, le groupe laitier était au courant depuis plusieurs mois de la présence de salmonelle dans son usine de Cran. Dès le mois d'août dernier, donc, des tests internes avaient repéré des salmonelles sur du matériel de nettoyage et sur les carrelages. En novembre dernier, rebelote, nouveau test dans l'usine mayennaise, nouvelle trace de salmonelle, mais encore une fois, le leader mondial des produits laitiers qui n'a pas l'obligation de communiquer sur ses contrôles internes, Lactalis, garde ses résultats sous le coude. Finalement, début décembre, à la suite de découvertes d'un nombre inhabituel de salmonellose chez des nourrissons ayant consommé du lait Lactalis, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, dépêche des fonctionnaires pour contrôler l'usine. Bruno Le Maire qui s'est exprimé ici sur France Inter quelques jours plus tard, le 12 décembre.
Nous n'avions pas toutes les garanties nécessaires, donc nous avons demandé à Lactalis de retirer 7000 tonnes de lait infantile pour garantir la sécurité sanitaire aux Français. La sécurité sanitaire des Français passe avant toute considération, même économique, même d'emploi, avant toute considération.
Et il y a une semaine, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour non-assistance à personne en danger, mise en danger de la vie d'autrui et tromperie.
Merci Philippe Randet. Un cas mortel de méningite signalé en Côte d'Or, un homme de 23 ans originaire de Chenôve. Il est mort quelques heures après son arrivée à l'hôpital. Ses proches ont été traités aux antibiotiques. Les familles des détenus applaudissent. Les gardiens de prison s'inquiètent après la décision du gouvernement d'équiper toutes les cellules de prison d'un téléphone fixe. 50 000 appareils à installer d'ici 3 ans. L'objectif est double, entretenir le lien avec les familles pour faciliter la réinsertion, mais aussi lutter contre le trafic des portables. Dans la prison des Baumettes à Marseille où s'est rendu Olivier Martoc, les avis sont plus que partagés.
Sur le trottoir devant l'entrée des Baumettes, une dizaine de femmes, elles sont là pour apporter leurs cadeaux de Noël aux détenus. Toutes, comme Déborah et Sarah, sont contentes de la mesure.
C'est une bonne chose quand même, parce qu'en dehors du parloir, on peut quand même s'appeler. Le parloir, c'est qu'une fois par semaine, donc 45 minutes. Ça maintient bien quand même. Hein. C'est un aide morale aussi, quand ça va pas, au moins ils peuvent appeler.
Déjà, ils pourront nous passer plus de coups de téléphone, donc oui, ça pourra améliorer beaucoup de choses, oui. Ça permet d'être assuré, tout ça, de savoir s'il va bien. C'est un plus.
Du côté des surveillants, en revanche, c'est un tout autre son de cloche.
Non, c'est pas une bonne chose et ça résoudra rien du tout. Ça ne fera qu'engendrer des problèmes.
Catherine Forzi, de Force Ouvrière.
Ils veulent téléphoner en toute discrétion. Ils vont se dire c'est surveillé. Donc il y aura toujours des trafics et peut-être encore plus. Ils ont des téléphones à l'intérieur des détentions pour appeler les familles, leurs avocats, etc.
Ça existe déjà.
Ça existe déjà, bien sûr, des points phones. Déjà, on n'arrive pas à les surveiller, à faire les écoutes comme on devrait les faire. Vous imaginez avec le nombre qu'ils vont rajouter là?
Le ministère a décidé de faire vite. L'appel d'offres pour la fourniture des 50 144 téléphones sera clos dans une semaine. Marseille, Olivier Martoc, France Inter.
Et toute la semaine, France Inter ouvre le dossier des grands chantiers de la justice qui feront l'objet d'une loi l'été prochain. Ce matin, coup de projecteur sur la simplification de la procédure pénale, censée faciliter le travail des officiers de police judiciaire, qu'ils soient d'ailleurs gendarmes ou policiers. Emmanuel Leclerc.
Ils attendent cette révolution de palais depuis tant d'années, ces OPJ qui rédigent le moindre procès-verbal dans de multiples services d'enquête. Aujourd'hui, les constats sont établis, les preuves de dysfonctionnement informatique et de perte de temps sont tellement accablantes. Ne reste plus que l'étape politique, celle du débat parlementaire. Thierry Clerc est le porte-parole du groupe d'enquêteurs adhérents du syndicat UNSA Police qui a rédigé 22 propositions de simplification de la procédure pénale.
Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, à chaque fois qu'on nous a annoncé une simplification de la procédure pénale, on s'est rendu compte que finalement, on complexifiait encore davantage parce que, quelque part, on rajoutait toujours des droits supplémentaires, etc. Mais je veux dire, vraiment, il faudra aller jusqu'au bout et savoir jusqu'où va aller le législateur. En tout cas, c'est une grande interrogation aujourd'hui encore pour nous. Il ne s'agit pas de bannir les droits de la défense. Il s'agit simplement de trouver de l'efficacité. Quand les procédures sont trop lourdes, c'est du temps qui est perdu pour tout le monde. Aujourd'hui, on a des services d'investigation où on n'arrive plus à recruter des enquêteurs. J'ai vu sur des derniers mouvements de mutation où on n'avait aucun volontaire pour aller dans certains services de sûreté départementale, alors que c'était auparavant des services qui étaient très prisés.
Et dans ce chantier de la simplification de la procédure pénale, il y a des solutions techniques qui n'attendent plus qu'un feu vert législatif d'ici la fin de l'année, comme celle de la signature électronique pour les procès-verbaux, comme avec un livreur de colis ou à la banque.
8h10, fini les vacances pour le gouvernement.
Il se retrouve ce matin à l'Élysée, premier conseil des ministres de l'année, suivi d'un séminaire. Emmanuel Macron veut fixer le cap et le calendrier des réformes à venir. Et le chef, Karine Bécart, aimerait bien que ses ministres mouillent un petit peu plus la chemise.
Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, il y a presque 8 mois, c'est aujourd'hui déjà le 4e séminaire gouvernemental. Comme au mois d'août dernier, il y a lieu ce matin à l'Élysée et comme à chaque fois, l'objectif reste le même. Il s'agit tous les 2 mois, donc en moyenne, de réunir l'ensemble des ministres pour discuter et surtout pour refixer avec eux les priorités. Voilà pour le discours officiel. Parce qu'en réalité, le président profite surtout de ses journées de travail pour faire passer auprès des membres du gouvernement sa ligne macroniste, pour leur demander de porter son action de président. Ils sont encore très peu nombreux à oser descendre dans l'arène pour défendre les réformes de leur patron, Emmanuel Macron. C'est finalement tout le paradoxe d'avoir souhaité des ministres experts plutôt que des personnalités politiques. Certes, cela évite les dérapages et les erreurs de communication, mais 8 mois après leur nomination et à l'orée peut-être des premières difficultés, il y a toujours peu de troupes pour soutenir politiquement le président.
La PMA gagne du terrain dans l'opinion. Résultat d'un sondage IFOP publié ce matin dans La Croix. 60% des personnes interrogées sont désormais favorables à la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes. C'est 10 points de plus qu'il y a 4 ans et c'est l'une des questions qui doit être tranchée cette année par le gouvernement.
Il est 8h12 après Carmen, voici Eleanor.
Mais pour qui sont ces tempêtes qui soufflent sur nos têtes? La dernière en date, Eleanor, est donc arrivée cette nuit par la Bretagne et par la Manche. 140 km/h en rafale. Reportage dans La Bête Saint-Brieuc à Pléneuf-Val-André, où Joanne Moisan a scruté le niveau de la Manche.
Le vent souffle, mais ici on redoute surtout les vagues submersion. Sur le port, l'eau déborde depuis plus d'une heure déjà. Yann est dans son bateau de pêche avec 2 matelots.
Il faut surveiller le bateau, là. On est là pour ça ce matin. On est rentré tout à l'heure à 6h30. On a livré notre poisson et maintenant on surveille que le bateau ne s'abîme pas le long du quai. Et on attend.
Le vent siffle dans les rues de Pléneuf-Val-André. On voit des poubelles au milieu de la route. Cyril est éboueur.
La plupart sont par terre dans les zones en courant d'air. Donc tous les papiers volent partout. On essaye de ramasser le maximum, mais bon, on ne peut pas tout ramasser non plus.
La lune éclaire la mer. On voit de puissantes vagues s'abattre sur la digue promenade. L'eau a complètement recouvert le sable. On voit de l'écume. Spectacle magnifique qui, au lever du jour, devrait attirer des curieux et de nombreux photographes amateurs, comme à chaque tempête.
Et après l'ouest, Eleanor va maintenant traverser la moitié nord. 51 départements en alerte. On fera le point dans quelques minutes avant de passer ensuite au-dessus des Alpes et de la Corse. Ce soir et la nuit prochaine, soyez prudents, on redoute des vents pouvant atteindre les 200 km/h. Si vous comptiez vous acheter un vélo électrique cette année grâce à la prime de 200 euros de l'État, vous risquez de vous retrouver le bec dans l'eau. Le gouvernement vient d'en modifier les conditions d'attribution par un décret paru assez discrètement le 31 décembre. Et visiblement, Rosalie Lafarge, il risque de faire beaucoup de déçus.
Jusqu'ici, l'État remboursait 20% du prix du vélo électrique dans la limite de 200 euros. À partir du 1er février, deux conditions s'ajoutent. D'abord, il ne faut pas payer d'impôt sur le revenu. Ensuite, il faut être rattaché à une collectivité qui verse déjà une aide à l'achat d'un vélo électrique. Dans ce cas-là seulement, l'État viendra compléter cette aide sans que le total ne dépasse 200 euros.
On quasi abandonne cette mesure parce que là, vraiment, le nombre de personnes bénéficiaires va être très proche de zéro.
Olivier Schneider est le président de la Fédération des usagers de la bicyclette.
C'est vraiment vider de son sens le dispositif. Le montant maximum reste le même de 200 euros. Par contre, il y a deux conditions qui ne sont pas du tout des toutes petites conditions. Vu qu'il faut être dans une ville qui verse une aide, mais une aide pas trop grande, il faut soi-même être non imposable, alors qu'on sait que les vélos assistance électrique sont quand même des vélos assez haut de gamme, assez cher et donc qui s'adresse plutôt à des gens un peu plus aisés, pas forcément fortunés, mais parfois qui sont imposables.
Et oui, parce qu'un vélo électrique, c'est en moyenne 1000 euros à l'achat. En une seule année d'existence dans sa forme actuelle, la prime aura permis d'en financer près de 250 000.
8h15, c'est l'un des romans les plus attendus de cette rentrée littéraire de janvier, Marc.
Signé Delphine de Vigan, qui avait décroché le Renaudot il y a 2 ans pour son livre D'après une histoire vraie, elle revient avec un nouveau roman, Les loyautés, tiré tiré à 150 000 exemplaires et qu'Ilana Moriousef a lu pour nous.
Dans la classe de 5e où elle enseigne, Hélène repère tout de suite le jeune Théo. Quelque chose ne va pas avec ce garçon, mais il ne dit rien. Comme chaque personnage du roman, il est pris au piège de la loyauté.
J'avais envie d'aborder peut-être un aspect plus sombre et souvent plus inconscient de la loyauté. Parfois, pour des raisons qu'on ignore, on se tient, on s'assigne presque à des engagements qui sont devenus absurdes. Théo, un des personnages du roman, dont les parents sont séparés, il est complètement tiraillé par un conflit de loyauté qui le ronge et menace de le détruire.
L'écriture de Delphine de Vigan est au plus près des sensations. Les corps parlent et elle les écoute.
Je me rends compte que c'est quelque chose que j'ai souvent exploré dans mon travail. Par exemple, mon tout premier roman qui raconte la guérison d'une jeune femme anorexique. Quand je l'ai écrit, au fond, ce que j'avais envie de raconter, c'était l'anorexie du point de vue du corps. Bien sûr, c'est une maladie mentale, mais dont le théâtre est le corps. Peut-être que je suis revenue à des choses plus viscérales d'une certaine manière. C'est ce que ressent par exemple cet enfant, ce bruit suraigu, cette espèce d'effet Larsen quand un de ses parents dénigre l'autre.
Delphine de Vigan réussit un roman dense, nerveux, traversé par des thèmes très contemporains, l'alcool chez les plus jeunes, la difficulté d'enseigner, la face sombre des réseaux sociaux, les loyautés et le diamant noir de cette rentrée d'hiver.
Les loyautés de Delphine de Vigan, c'est publié chez Lattès, Nicolas.
Merci Marc Fauvel.